Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le sociologue Gérald Bronner.
Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Merci d'être sur RTL, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et vous avez publié au printemps dernier Apocalypse cognitive, un livre qui a connu un grand succès. Et donc c'est vous que le président a choisi pour diriger la commission qui porte votre nom, la commission Bronner. Commission qui a pour but de lutter contre le complotisme et tout ce que les réseaux sociaux charrient de conspirationnisme, scepticisme, fake news. Enfin, remettre de la rationalité dans le débat, j'allais dire vaste programme, comment on fait ?
Très vaste programme, oui, en effet. Alors comment on fait ? C'est ce que la commission va essayer d'éclaircir. D'abord, ce qu'on fait en premier lieu, c'est de savoir où en est-on de la connaissance de ces perturbations numériques, finalement, de notre vie publique. Il s'est quand même passé quelque chose d'absolument révolutionnaire ces 15, 20 dernières années. On ne s'informe plus tout de la même façon. Songez par exemple que dans les deux dernières années, on a tout simplement produit 90% de l'information disponible. La question, c'est de savoir si dans cet océan d'informations, les boussoles qui sont mis à notre disposition dans le monde numérique nous conduisent bien vers la rationalité, l'objectivité, la tempérance des points de vue, la possibilité du débat, bref, un espace logique, intellectuel commun qui est essentiel à la vie sociale et en particulier à la vie démocratique.
Sauf qu'il y a le meilleur et le pire dans ce flot d'informations et qu'on a tendance parfois à préférer le pire, c'est ça que vous dites ?
Oui, absolument. Il faut rappeler évidemment qu'Internet est un outil technologique formidable. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit simplement de se poser les conditions finalement de la possibilité de ce débat. Et en effet, il y a le meilleur, il y a des cours formidables du Collège de France, par exemple, des propositions intellectuelles de toutes sortes, mais effectivement, dans cette concurrence effrénée qui caractérise aujourd'hui le monde de l'information, ce que beaucoup d'études montrent, c'est qu'il y a une prime à la négativité, par exemple. Il y a une étude sur plus de 42 millions de tweets qui montre que les tweets négatifs ont plus de chances de se diffusent plus vite que les propositions neutres ou positives. Par exemple, les fausses informations se diffusent plus vite, elles sont mieux mémorisées. Et évidemment, tout cela organise, disons, une cacophonie qui n'est pas forcément favorable à, encore une fois, la tempérance des débats et même la cumulativité de ces débats.
Mais alors, comment on fait pour ramener des gens qui ne croient plus en rien, qui se sentent loin du système, qui se détournent de la politique et qui croient en ces théories du complot, en ces fake news? Comment on fait pour les ramener au bercail, si j'ose dire?
Encore une fois, je ne veux pas préjuger des conclusions de cette commission, mais il y a tout de même quelques pistes qui sont bien connues par la science contemporaine. Premièrement, il y a, c'est vrai, dans notre cerveau, toutes sortes de dispositions qui nous conduisent, par exemple, à préférer des informations négatives à positives. Il y a des choses comme ça, on pourrait dire des faces obscures de notre cerveau. Mais il y a aussi le meilleur. C'est-à-dire qu'on peut, pourquoi pas, il n'y a pas de raison de s'interdire, par exemple, d'enseigner l'esprit critique, la pensée méthodique aux plus jeunes au sein de l'éducation nationale, mais
l'école.
Pour tous en réalité. Il n'y a pas que l'école, à la limite, c'est une formation continue de notre esprit, parce que certaines informations, encore une fois, qui sont trompeuses, peuvent sembler vraies. Lorsque deux phénomènes surviennent en même temps, par exemple, on peut avoir l'impression que l'un a causé l'autre. C'est ce qu'on appelle la confusion entre corrélation et causalité. Excusez-moi de ce terme un peu technique, c'est une illusion mentale, ce qu'on appelle un biais cognitif, et ces biais cognitifs envahissent en quelque sorte notre vie publique.
Enfin, j'ai quand même vu que 67% des Français, selon l'IFOP, doutent de la véracité des informations qu'ils reçoivent d'un média reconnu. 67%.
Absolument. Mais il y a un autre fait aussi qu'il faut mentionner, qui est tout aussi incommode, c'est que, pas que les Français, un peu partout dans le monde, on s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis ou même en Europe, les réseaux sociaux sont en passe de devenir la première source d'information. C'est déjà le cas chez les plus jeunes. Et en même temps, partout dans tous les sondages, ce sont les sources d'information qui paraissent les plus douteuses aux individus. C'est-à-dire à la fois, ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux et en même temps, ils ont du mal à croire ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, ce qui aboutit à une sorte de situation très très incommode que nous vivons aujourd'hui.
Ces théories du complot, c'est le fait souvent de minorités. On a le sentiment d'entendre davantage des minorités que la majorité. Est-ce qu'à force de parler des complotistes, finalement, on n'est pas en train de les mettre en avant, de les faire prospérer ?
Alors certainement, nous avons tous une part de responsabilité dans cette situation, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, on parle des complotistes, on pourrait dire la même chose sur les anti-vaccins, etc., c'est qu'en effet, à la base, ce sont des groupes qui sont plutôt minoritaires. Mais ce que la science montre aujourd'hui, ce qu'on appelle la science computationnelle, qui étudie le monde numérique, c'est que ces mondes numériques ont cette caractéristique de donner une audience incroyablement forte à des groupes minoritaires, tout simplement parce qu'ils sont très motivés à faire valoir leur point de vue, ce qui fait que peu à peu, ce qu'on appelle la dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire la situation Internet grosso modo, eh bien, fait essaimer des formes d'argumentation qui auparavant existaient dans des espaces de radicalité et qui aujourd'hui se diffusent dans l'espace public parce qu'elles paraissent convaincantes à un certain nombre de nos concitoyens.
Mais finalement, c'est celui qui crie le plus fort qu'on entend le plus. Mais ça a toujours existé.
Ça a toujours existé, mais les mondes numériques amplifient en réalité ce qui a toujours existé. Par exemple, on parle souvent du biais de confirmation, c'est-à-dire la tendance que nous avons en général à aller chercher une information qui va dans le sens de nos croyances préalables. Ça n'a pas attendu Internet, évidemment. C'est très ancien, aussi ancien que l'humanité. Mais Internet a probablement amplifié cette réalité. Donc en fait, il s'agit de repenser les conditions, finalement, de notre liberté de penser. Aujourd'hui, dans ce monde numérique, il s'agit de voir que ces outils peuvent nous servir, mais qu'en réalité, pour l'instant, elles nous asservissent.
Et alors, docteur, est-ce que la situation est grave, Gérald Bronner ?
Je crois que la situation est préoccupante.
Il y a un danger ?
Il y a un réel danger. Il y a un réel danger. À partir du moment où vous avez vu, par exemple, aux États-Unis, le Capitole envahi, qu'en France, vous avez vu des mouvements anti-vaccins, que, par exemple, même l'enlèvement de la petite Mia, vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois, était le fait d'individus qui avaient versé dans le complotisme, on voit bien que ces réalités numériques ne restent pas confinées dans le monde numérique. Elles sont réelles, en quelque
sorte.
Elles
débordent.
Elles débordent et elles pèsent sur notre vie démocratique. Mais il n'y a pas que moi qui le dis, il n'y a pas qu'en France qu'on le dit, toutes les grandes instances internationales se pose cette question, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS même récemment.
Je vous avais lu, vous disiez qu'à la suite des manifestations anti-pass ou anti-vax, que nous étions dans une période fortement imprévisible sur le plan politique et que si surgissait un individu capable d'agréger les anti, alors la face politique de la France pourrait changer. On y est ?
Je ne crois pas que les conditions politiques soient réunies en France, en tout cas, quoi qu'il faudrait quand même regarder certaines candidatures récentes pour se reposer la question. Mais il est évident que dans d'autres pays, on pense aux États-Unis avec Donald Trump ou à Bolsonaro, ou aux États-Unis avec Beppe Grillo.
Mais Zemmour, par exemple.
Zemmour pourrait être effectivement un individu qui catalyse cela. Seulement, j'ai l'impression que Zemmour catalyse surtout le vote à droite ou est très à droite. Mais il faudrait poser la question à des collègues politologues.
Mais il est complotiste, Éric Zemmour. Je ne sais pas quand il défend que Pétain a protégé les Juifs français, livré les Juifs étrangers alors que c'est faux, ça c'est...
Ah, ce que les collègues historiens disent, c'est qu'ils falsifient un certain nombre de données. Ça, c'est incontestable. Je ne dirais pas qu'il est complotiste pour autant. C'est pas qu'on peut diffuser des fausses informations sans que ça soit directement du complotisme.
Mais il y a un lien entre l'extrême droite et le complotisme ?
Un lien très fort, ça aussi, la science le montre. D'une façon générale, d'ailleurs, un lien entre les radicalités politiques, pas seulement l'extrême droite, et le complotisme. Mais il est vrai, il y a quand même une asymétrie, je dirais, en faveur de l'extrême droite sur ces questions. Et d'ailleurs, les événements récents le montrent, puisqu'il y a quelques jours encore, un groupe a été arrêté par la DGSI, un groupe complotiste d'extrême droite qui projetait, n'est-ce pas, de brûler un temple maçonnique et puis des centres de vaccination, par exemple.
Merci beaucoup, Gérald Bronner, sociologue de la Commission Bronner.